Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En juin, Code Source vous a raconté le fiasco de Knysna, le mondial de football 2010, catastrophique pour les Bleus, avec en point d'orgue la grève du bus. Ça nous a donné envie, pendant ces vacances, et alors que l'Euro a été reporté, de revenir sur d'autres étés beaucoup plus glorieux pour l'équipe de France.
Second poteau Pavard !
Aujourd'hui, le Mondial 2018 en Russie, les Bleus de Kylian Mbappé, entraînés par Didier Deschamps, vont décrocher une deuxième étoile. Récit de Dominique Sévérac, Bertrand Métayer et Harold Marchetti du service des sports du Parisien. Bertrand Métayer, Dominique Sévérac, Harold Marchetti, vous allez nous raconter ce mondial 2018 pour les Bleus. Dominique Sévérac, en 2016, les Bleus de Didier Deschamps ont perdu en finale de l'Euro face au Portugal. Ça les a marqués ?
Oui, l'atterrissage est difficile. Le moment était important. Être champion d'Europe sur le sol français, comme les Bleus de Michel Platini en 1984, il y avait une attente et un rêve. Forcément, après, les moments d'après, les mois d'après, sont ceux de la décompression, de la déprime, parfois un peu de dépression pour certains joueurs. Mais cette défaite va aussi beaucoup leur apprendre, notamment à Didier Deschamps, qui dit que elle la nourrit pour savoir comment aller au bout d'une compétition, c'est-à-dire la gagner.
Bertrand Métayer, le 1er décembre 2017, le tirage au sort de la Coupe du Monde a lieu au Kremlin, à Moscou. Ça donne quoi pour les Français ?
La France se retrouve dans un groupe avec le Pérou, l'Australie et le Danemark. Donc franchement, on se dit que la France a de la chance, que Didier Deschamps a de nouveau de la chance, parce que sur l'ensemble de sa carrière comme joueur ou comme sélectionneur, comme entraîneur, il aurait toujours eu le petit coup de boost du destin. C'est un tirage qui est considéré comme plutôt abordable.
Harold Marchetti, Didier Deschamps, c'est un coach qui est respecté par ses joueurs ?
Bien sûr, en fait, ces joueurs connaissent tous le palmarès de Didier Deschamps. Il est champion du monde, champion d'Europe comme joueur. Il a gagné tous les trophées, des titres nationaux, de Ligue des Champions. Donc tout ça, ça suscite forcément le respect des joueurs. Et puis également, c'est quelqu'un qui parle de jeu et qui est profondément humain avec eux. Il y a des discussions, il y a des échanges, il n'y a pas de décision arbitraire. Globalement, Didier Deschamps ainsi que son staff, qu'il ne faut pas oublier, il y a une osmose totale entre les joueurs et le staff.
Didier Deschamps, ça fait 6 ans quand la Coupe du Monde commence qu'il dirige l'équipe de France. Un homme qui a posé sa patte sur l'équipe de France grâce à une communication. Et franchement, il endosse le costume de sélectionneur admirablement bien.
Didier Deschamps, il est comment avec ses joueurs ?
C'est quelqu'un qui aime être à l'intérieur du cerveau de ses joueurs. Ce qu'il aime, lui, avant tout, c'est rentrer dans le cerveau de ses joueurs, savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils mangent, comment ils dorment, comment ils vivent. Il veut tout savoir parce qu'il pense que s'il sait quel homme il a face à lui, il va savoir quel footballeur il aura face à lui. Et ce qu'il pourra lui demander, ce qu'il pourra tirer de lui, la quintessence qu'il essaiera de sortir de lui. C'est un homme qui lit beaucoup de bouquins de psychologie. C'est ça qui l'intéresse. Il passe son temps, par exemple, lors des rassemblements en Russie, ou à faire du gainage, parce qu'il s'entretient, il est féru de musculation, tout ça, ou à lire des bouquins de psychologie. Il pense qu'à ça toute la journée.
Est-ce qu'il a des trucs pour obtenir le meilleur de ses joueurs ?
Je pense qu'il passe beaucoup par le dialogue, beaucoup par la détente. C'est quelqu'un qui est très chambreur, c'est quelqu'un qui aime créer des atmosphères conviviales. Il va rigoler, il va se moquer de vous, il va vous faire une petite blague. Et donc, tout de suite, ça détend l'atmosphère, on se sent confiance avec lui. Mais attention, il dort jamais. il est en train d'observer, il est en train de regarder, il est en train de se dire, ah tiens, lui, il est comme ça, comment il réagit à ma blague. S'il y a de la susceptibilité, bah, tout de suite, il sait qu'il est face à un caractère un peu plus fermé qu'un autre qui va répondre, et qui va lui répondre encore avec une vanne encore plus grosse. Ce qui peut arriver, bah, je pense qu'un Paul Pogba, quand vous le chambrez, attention au retour de bâton. C'est quelqu'un qui teste, qui regarde, qui observe.
Défenseur, Lucas Hernandez.
Le jeudi 17 mai 2018, dans le journal de 20h de TF1, Didier Deschamps donne sa liste des 23 joueurs retenus pour le Mondial.
Quand on regarde cette liste, ce ne sont que des cadres qui sont retenus. Kylian Mbappé qui est la valeur montante, Antoine Griezmann, le chouchou des Bleus depuis Euro 2016, Hugo Lloris, le gardien du Temple, Blaise Matuidi, Raphaël Varane qui avait manqué sur blessure l'Euro 2016. Voilà, c'est Olivier Giroud, parfois décrié mais très précieux, et il ne comporte pas vraiment de surprise.
Le Mondial 2018 se dispute en Russie du 14 juin au 15 juillet. Bertrand Métayer, le 16 juin, la France joue son premier match à Kazan et c'est face à l'Australie.
Oui, un premier match pour lequel Didier Deschamps fait des choix un petit peu forts puisqu'il décide d'écarter Blaise Matuidi et Olivier Giroud. Deux de ses grognards, c'est vraiment les joueurs sur lesquels il s'appuie le plus depuis qu'il est à la tête de l'équipe de France. Et il décide de lancer Ousmane Dembélé, un joueur fantastique, une pépite qui va former avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé une attaque qui est censée être vraiment un rêve pour tout entraîneur, et Corentin Tolisso au milieu. Tout le monde est un petit peu surpris de ce choix qui est audacieux, qui est très offensif de la part de Didier Deschamps. Sur le papier, c'est plutôt excitant.
Dominique Sévérac, comment ça se passe pour les Bleus ?
C'est un match laborieux, un match poussif. L'équipe de France rentre pas bien dans la partie. Elle est pas spectaculaire, elle est pas bonne. Il y a pas de lien. On est dans la continuité des matchs amicaux qu'on a observés en France avant de partir pour la Russie. Donc la France gagne, donc le résultat est là, c'est ce qui compte. Mais on n'y est pas forcément plus avancé. C'est Michèvre Michou.
Voilà, alors on s'en sort bien encore là.
Pour l'instant, on s'en sort très très bien, Michèvre.
Victoire 2 buts à 1 face à l'Australie. Donc comment réagit Didier Deschamps ?
Il est très en colère contre la prestation de ses joueurs, l'état d'esprit, ce qu'il a vu sur le terrain, la qualité technique, les mouvements. Enfin, pour lui, il n'y a vraiment pas grand-chose qui va. Et le lendemain du match, il y a un débriefing vidéo où il est très saignant et il va vraiment pointer du doigt les joueurs, et notamment un, Kylian Mbappé. On l'a dit, c'est la star montante de cette équipe. Ça peut être potentiellement l'atout numéro un de cette équipe, mais il est très jeune, il découvre la Coupe du Monde. Et en gros, il lui reproche un manque d'investissement défensif. Il lui reproche de ne pas avoir suffisamment utilisé sa vitesse, de ne pas avoir été assez disponible. En gros, il lui dit devant tout le monde, ce que tu as fait, c'est nul. Ton potentiel, il est énorme et maintenant, il va falloir que tu le montres parce que sinon, ça ne va pas bien se passer.
Pour le match de poule suivant, la France joue contre le Pérou à Ekaterinbourg le 21 juin. Dominique Sévérac, comment jouent les Bleus face aux Péruviens ?
On s'aperçoit qu'on tombe sur une équipe de France qui est solide, intelligente, combative et courageuse. Parce que ce qu'on n'avait pas imaginé ou ce qu'on ne savait pas bien, c'est que le Pérou, bah, c'est fort en fait. Le Pérou, c'est vicieux, c'est truqueur, c'est techniquement assez élevé. Ils sont poussés par 30 000 Péruviens exceptionnels de ferveur, de générosité, de chant. On est surpris de l'opposition des Péruviens, mais l'équipe de France est bonne et elle trouve des solutions.
Parole marketing.
Oui, et la solution, la clé va venir de Kylian Mbappé.
Ils sont en danger, les Péruviens, ils sont en danger.
Grâce à un travail préparatoire d'Olivier Giroud.
Et l'ouverture du score pour Kylian Mbappé.
Un ballon contré et Kylian va gicler pour mettre le ballon au fond des filets. Et il rentre dans l'histoire parce que ce jour-là, il devient à 19 ans et demi le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France lors d'une Coupe du Monde.
Le premier but à 19 ans en Coupe du Monde pour Kylian Mbappé.
Le score en restera là, les Bleus s'imposent 1-0 et sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Dans leur dernier match de poule, ils concèdent un nul 0 partout face au Danemark. Dominique Sévérac, à l'approche des huitièmes, qu'est-ce qu'on se dit sur cette équipe de France ?
En fait, c'est un peu comme après le premier match contre l'Australie, on n'est pas plus avancé. Bon, ok, il y a eu le sursaut du Pérou. On n'est ni rassuré, ni vraiment inquiet. On est un petit peu attentiste dans les expectatives.
Les Bleus affrontent l'Argentine de Lionel Messi en huitième de finale le 30 juin à Kazan. Harold Marchetti, dans les vestiaires, Paul Pogba prend la parole.
Oui, ça surprend un petit peu parce que jusqu'à présent, Paul Pogba était plus un leader de jeu, mais pas forcément un leader de vestiaire. Et là, il va prendre les choses en main en disant
« Bonhomme, on veut voir des guerriers sur le terrain aujourd'hui. Hein. Hey, moi, je ne veux pas rentrer ce soir. Moi, ce soir, je ne rentre pas. »
après, il y a également un côté humoristique en disant « je continue à manger des pâtes pendant 15 jours et les gars, il faut qu'on se mette minable, il faut qu'on dépose ses coronesses sur le terrain. » Et les joueurs sont totalement marqués, étonnés, et ils ont envie, entre guillemets, de mettre les propos de Paul Pogba sur le terrain, de les appliquer. En fait, ce jour-là, Paul Pogba assume enfin son statut.
Dominique Sévérac, comment commence ce match pour les Bleus ?
Eh ben, ça débute à 100 à l'heure.
Mbappé peut tenter de s'échapper.
Avec une accélération de Kylian Mbappé qui ne peut être que stoppé irrégulièrement par Roro, l'arrière-droit de l'Argentine.
Penalty
pour la France incontestable, c'est tout de suite. Et c'est d'emblée, donc l'équipe de France, elle entame le match comme elle l'avait imaginé, comme dans un rêve, c'est-à-dire pour frapper les esprits.
Et ouais, le voilà le 22e but sous ce maillot bleu pour Antoine Griezmann.
Elle va mener très vite 1-0 grâce à ce penalty de Griezmann.
Les Bleus mènent 1-0.
Et pendant toute la première période, les Bleus montrent qu'ils sont au niveau.
L'équipe de France est à la hauteur de ce 8e de finale de Coupe du Monde. Elle est dans son match. Elle domine plutôt l'équipe d'Argentine. Elle mène 1-0. Donc ça se passe plutôt bien.
Juste avant la pause, l'Argentine, qui n'avait pas eu énormément d'occasions, va réussir à égaliser. André Di Maria, le joueur parisien, récupère le ballon à presque 30 mètres des buts de Lloris.
Di Maria, en revanche, il peut frapper.
Frappe du gauche, superbe, qui trompe le capitaine français. Et le match est tout à fait relancé.
Un partout à la mi-temps. Bertrand Métayer, les premières minutes de la seconde période sont en faveur des Argentins.
L'Argentine va prendre l'avantage avec un but de Mercado. Ben là, ça tourne un petit peu binaire au cauchemar. La France n'avait jamais été menée dans cette Coupe du Monde.
Mais en première mi-temps, ce sont les Bleus qui ont dominé. Et effectivement, ils prennent un coup derrière la tête juste avant la mi-temps. Et juste après. Donc on est un petit peu interloqué, un peu stupéfait.
Qu'est-ce qui se passe après ?
Qu'est-ce qui se passe après ? Ben, y a un joueur qui va sortir totalement de l'anonymat.
Qui ?
Benjamin Pavard. Benjamin Pavard, personne ne le connaît, ou très peu. Il joue en Allemagne dans un petit club à Stuttgart. Et là, il va bénéficier en fait, d'une action d'école. Un long dégagement de Lloris, une passe de Matuidi qui va casser les lignes argentines. Derrière, c'est Lucas Hernandez, le latéral gauche, qui va centrer. Un centre très fort. Et là, c'est un petit moment d'éternité.
Et les Argentins qui descendent plus bas, qui sont un petit peu plus compacts.
Ouais, c'est passé dans le dos le centre, Lucas.
Allez.
Second poteau, Pavard.
Oh Benjamin Pavard.
Une frappe chirurgicale qui va se nicher dans la lucarne du gardien argentin.
C'est une Pavard et ça permet aux Bleus, sur cette frappe somptueuse, de recoller de partout.
Et là, on comprend que les Argentins ont pris un uppercut. Ils sont KO debout. On voit Mascherano, on voit Messi, ils sont figés, livides, liquéfiés. Pour eux, le match est perdu.
Bertrand Métayer, quelle est l'ambiance à ce moment-là en tribune de presse ?
J'ai vu des confrères debout sur leur siège, c'est assez rare. Il y a une sorte de mouvement collectif, tout le monde est un peu abasourdi, halluciné par le geste qu'on vient de voir. C'est l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde, complètement surréaliste. Et on se dit qu'il est en train de se passer quelque chose, que ce match est en train de basculer dans l'irrationnel, dans la folie, dans la légende.
On en est quand même qu'à deux partout.
Oui, donc on n'est même pas encore passé l'heure et on est déjà à 4 buts avec déjà des renversements, des situations un peu folles. L'équipe de France qui prend l'avantage, qui se fait contrer, puis qui réégalise, qui revient un petit peu alors que c'est une équipe de France un peu jeune. Donc on se dit, est-ce qu'elle va pas sortir du match ? Ben non, elle revient dans le match. Donc oui, ça a tout du match fou.
Que se passe-t-il ensuite ?
On dit que les grands matchs appartiennent aux grands joueurs. Et ben voilà, c'est l'arrivée sur la scène internationale de Kylian Mbappé. D'abord, il s'empare du ballon, il dribble 3 joueurs et du gauche trompe le gardien argentin.
Et Mbappé qui accélère !
8 minutes après, il inscrit un doublé.
Kylian Mbappé ! Kylian Mbappé, il l'a vu !
L'équipe de France mène à ce moment-là 4-2. Aussi jeune, aussi fort, on n'avait pas vu ça depuis Pelé.
Il a fait vraiment tourner en bourrique les Argentins tout au long du match, par sa vitesse, par sa précision. Tout ça sous les yeux de Diego Maradona. Hein. On parle de Pelé, on parle de Maradona, et bien maintenant il y a Mbappé, il est sur le terrain et il est l'équivalent de ces joueurs-là.
Il y a un petit jeune de 19 ans et demi, là, que la France connaît, mais pas forcément le monde, est en train de mettre à la porte Lionel Messi. Mbappé chasse de la Coupe du Monde Lionel Messi. On est sous un effet de sidération totale. On se dit, mais c'est incroyable, c'est hallucinant ce qui se passe. Et cette équipe de France-là n'a plus de limite. Là, ce soir-là, on est à Kazan avec Bertrand, on se dit, pourquoi elle serait pas championne du monde, en fait ?
La France va remporter ce 8e de finale 4-3. Harold Marchetti, est-ce qu'on sait ce qui se passe en France pendant ce temps ?
En France, il y a quelque chose qui est en train de naître. On s'est dit, on a le meilleur joueur du monde. Il y a quand même à renvoyer Lionel Messi à la maison. Il n'y a pas de limite. En fait, on est dans une équipe où on a un génie. Et puis derrière, on se dit maintenant, une fois qu'on a battu l'Argentine, qu'est-ce qui nous reste? Il peut rester peut-être le Brésil, mais tout le reste, ce sont des équipes à notre portée. Donc effectivement, en France, il y a un courant de sympathie et on se dit, c'est reparti comme en 98.
Bonjour à tous, le stade de Nijni Novgorod entrera-t-il dans l'histoire du football français?
La France joue son quart de finale face à l'Uruguay le 6 juillet. Dominique Sévérac, l'Uruguay privé de Cavani.
Oui, l'idole du Parc des Princes, Amalo Moley, s'est blessé contre le Portugal, donc il ne peut pas jouer ce quart de finale. C'est aussi l'idole de certains joueurs français, dont Antoine Griezmann, qui a une culture uruguayenne comme ça. Et donc, il est face à son modèle et il ne peut pas l'affronter. Cavani, évidemment, assistera au match, mais malheureusement, depuis la tribune.
Harold Marchetti, résumez-nous ce match face à l'Uruguay.
C'est sans doute le match où les Bleus vont connaître moins de soucis. Ils sont en totale maîtrise. Hugo Lloris va y contribuer en effectuant également aussi un arrêt sensationnel sur une tête de Godin.
Oh oui ! Quel arrêt !
Extraordinaire !
Quel arrêt !
Et puis derrière, un but en première mi-temps, un but en deuxième, et c'est terminé. Les Uruguayens sont renvoyés chez eux et les Français sont en demi-finale.
Bertrand Métayer, contre qui vont jouer les Bleus en demi-finale ?
Quelques heures après la qualification des Bleus, il y a l'autre match, l'autre quart de finale entre la Belgique et le Brésil, que les Bleus vont suivre un petit peu à distance sur leur téléphone. Et tout le monde est un petit peu persuadé que le Brésil va l'emporter et qu'il y aura une demi-finale France-Brésil. Et puis finalement, les Belges, emmenés par une génération dorée, une attaque incroyable, renversent Neymar et son équipe. Et donc, c'est presque un duel de cousins particulièrement alléchant parce que ces deux équipes proposent un jeu offensif particulièrement excitant.
France-Belgique en demi-finale du Mondial 2018, le 6 juillet à Saint-Pétersbourg. Dominique Sévérac, on peut dire que les Français sont favoris face aux Belges ?
Cette fête des voisins, elle est encore indécise, hein, parce que autant l'équipe de France, elle a impressionné dans les tours précédents, on sait que désormais qu'avec Kylian Mbappé, tout est possible, mais l'équipe de Belgique, elle possède avec Eden Hazard aussi son petit phénomène à elle. Elle a une équipe très bonne, très spectaculaire, très joueuse, peut-être beaucoup plus joueuse que l'équipe de France, elle a plus de ressorts footballistiques, l'équipe de France est plus solide, peut-être mentalement plus costaude. C'est un duel incertain. Je crois qu'à l'époque, on se dit que l'équipe de France a un tout petit avantage, peut-être.
Bertrand Métayer, décrivez-nous le début de cette demi-finale pour les Bleus.
C'est tendu, c'est accroché, et surtout, on sent la Belgique prendre peu à peu possession du match.
Oh, attention, attention.
La frappe d'Eden Hazard, elle va fuir le cadre.
Ils ont beaucoup plus la balle, ils sont beaucoup plus dangereux. L'équipe de France a des difficultés à exister dans la rencontre.
Les Bleus font face ?
Les Bleus font face, il y a des hommes clés, comme vous savez, un match a toujours une histoire. Là, il y a encore une fois un homme qui traverse cette Coupe du Monde avec un talent incroyable, c'est Hugo Lloris. Hugo Lloris sort des parades face à des frappes des multiples attaquants belges. C'est sidérant, c'est magnifique, il les maintient dans la partie, quoi, en fait. La France tient le choc parce que Hugo Lloris est là.
Zéro partout à la mi-temps, que dit Didier Deschamps dans le vestiaire ?
Il demande aux joueurs de rester calme, évidemment, et il fait une petite correction tactique. Il a trouvé que Eden Hazard avait beaucoup trop de liberté en première période, donc il décide de resserrer un petit peu le dispositif autour d'Eden Hazard pour qu'il ait moins de liberté, et ça marche, parce qu'en deuxième période, Eden Hazard, on le voit quand même un peu moins.
Et que vont faire les Français ?
À un moment donné, sur un corner, l'équipe de France obtient un corner, il est tiré au premier poteau, et là, un garçon qui n'avait encore jamais marqué avec l'équipe de France, en tout cas pendant la Coupe du Monde, c'est Samuel Umtiti, le défenseur central.
Il en suffira d'une ! Il en suffira !
Détente au premier poteau, Thibaut Courtois qui est pourtant un gardien immense est battu, l'équipe de France mène 1-0.
Harold Marchetti, les Belges ne lâchent rien.
Non, parce que les Belges, au vu de leur première période, sont persuadés qu'ils vont réussir à percer cette muraille, arriver à tromper Hugo Lloris. Mais Hugo Lloris continue à être très sûr, les Français défendent très bien, très intelligemment. Ils laissent la possession du ballon aux Belges, mais à l'arrivée, c'est très stérile. Autant ils ont souffert, ils ont essuyé des situations chaudes en première période. Après le but d'Umtiti, ça va plutôt bien se passer pour les Français.
La suite du match va être tendue.
C'est très crispant, parce qu'en fait, il n'y a que 1-0, et il suffirait, je dirais, d'un exploit de Hazard ou de Lukaku, voire de De Bruyne, pour permettre aux Belges d'égaliser, mais les Français vont très bien maîtriser la force et la puissance offensive belge, et Hugo Lloris va faire le reste. Je dirais, il va se traduire un sentiment d'impuissance. On avait l'impression que les Belges auraient pu jouer pendant des heures et ne pas marquer.
Le score n'évoluera plus. Les Bleus s'imposent sur la Belgique 1-0. Bertrand Métayer, la France est en finale du Mondial 2018.
Ouais, et on voit les joueurs exulter, on sent un soulagement, une joie énorme.
Un soulagement.
Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de stress pendant tout ce match, ils savent qu'ils sont pas passés loin, et ils viennent nous raconter, après la rencontre, à quel point ça a été difficile, mais à quel point ils sont fiers d'avoir réussi ce parcours-là. Ils viennent d'entendre aussi les Belges qui sont venus répéter au micro que la France ne méritait pas d'avoir gagné ce match. Il y a un côté assez peu fair-play de la part des Belges qui n'ont de cesse de critiquer l'équipe de France. Les joueurs, eux, n'en ont cure. Ils disent « Bah oui, mais nous, on est qualifiés, on est en finale, on a gagné, on a fait ce qu'on peut. » Et ils se recalment très vite. Toujours cette méthode Didier Deschamps. On se calme, l'objectif n'est pas atteint. Maintenant, on est en finale, on veut aller gagner. Donc, l'euphorie est de très courte durée parce qu'ils sont déjà concentrés sur ce qui va se passer à Moscou quelques jours plus tard.
Dominique Sévérac, que va se dire Didier Deschamps après cette demi-finale?
Alors quelques jours plus tard, après quelques mauvaises nuits, mais le calme revenu, il a le jeudi précédent la finale, le pressentiment qu'il ne saurait expliquer, qu'il ne saurait traduire rationnellement, que l'équipe de France, son équipe de France, va devenir championne du monde de football.
Il le sait.
Il le sait. Ça s'impose à lui comme un sentiment auquel on ne peut pas faire face.
La finale du Mondial 2018 va se disputer le 15 juillet à Moscou. Qui sera l'adversaire des Bleus ?
C'est la Croatie de Luka Modric, un garçon qui émerveille le football européen depuis des années, qui joue au Real Madrid et qui vient de remporter la Ligue des Champions.
Bertrand Métayer, comment se préparent les Bleus à l'approche de cette finale ?
On sent dans les jours qui précèdent le match une forme de sérénité. Chaque jour, il y a des cadres de l'équipe de France qui se présentent devant les médias, qui montrent du calme, de la détermination, de l'assurance. Ils se dégagent une forme de certitude qu'ils sont capables d'aller décrocher ce titre. Fort de l'expérience ratée de 2016, ils n'ont pas du tout envie de revivre cette expérience-là. Ils le disent, ils le répètent. Et on sent une force qui se dégage de ce groupe, qui avance tranquillement vers son destin, vers cette finale.
Dominique Sévérac, ça paraît fou, mais à ce moment-là, Didier Deschamps, il est malgré tout critiqué.
Oui, en France, certains se permettent, entre guillemets, de le critiquer. En fait, c'est une histoire de vieille comme le football. On lui reproche de manquer de jeu, on lui reproche un jeu un peu chirurgical, clinique, qui manque de flamboyance, qui manque d'action construite. C'est un débat vieux comme le monde, mais un débat un peu stérile, en fait. Ça montre que Didier Deschamps reste cet entraîneur toujours critiqué, malgré tout. C'est étonnant.
Le dimanche 15 juillet, la France affronte la Croatie en finale du Mondial à Moscou. Sur le papier, la France est favorite ?
Oui, nourrie de cette victoire contre la Belgique, nourrie de son match exceptionnel qui est déjà dans les légendes contre l'Argentine, on se dit que l'équipe de France devrait passer l'obstacle final contre la Croatie.
Harold Marchetti, comment les Bleus débutent cette finale ?
Ils débutent plutôt bien parce qu'ils vont marquer assez rapidement. En fait, Antoine Griezmann va tirer magistralement un coup franc et Mandzukic, en voulant disputer le ballon avec un attaquant français, va lui toucher de la tête et va marquer contre son camp.
L'ouverture du score pour l'équipe de France, encore une fois, sur un coup de pied arrêté.
La France ouvre le score grâce à un but d'un Croate. Donc ça se présente sous les meilleurs auspices.
Dominique Sévérac, les Bleus mènent 1-0 en finale du Mondial. Que se passe-t-il ensuite ?
Et l'équipe de France perd un petit peu le fil, elle s'endort un petit peu. Il y a quelques joueurs qui sont moins bons que d'habitude, par exemple N'Golo Kanté.
On s'est prolongé deux fois, trois fois, pas encore sorti. Et la frappe de Perisic !
Oh non ! Et la frappe de Perisic pour l'égalisation croate !
Juste avant la mi-temps, Bertrand Métayer, Antoine Griezmann va obtenir un pénalty.
La France profite encore d'un fait de jeu. Le fameux Perisic qui vient de marquer pour la Croatie touche le ballon de la main dans un duel.
Oh, il demande une main, il demande une main, les Français, il demande une main, regardez.
L'arbitre est obligé d'aller vérifier à la vidéo que le ballon a bien touché la main du Croate.
Il a le bras décollé du corps.
Pénalty, le pénalty.
Et il désigne le point de pénalty.
Antoine Griezmann. 38e minute.
La France est repassée en tête.
2 à 1 à la mi-temps. Dominique Sévérac, comment se passe sa seconde période ?
On retrouve l'équipe de France telle qu'on l'a connue majoritairement dans ce mondial. Elle revient, elle est chirurgicale, clinique, froide, sûre d'elle, efficace. Elle domine de la tête et des épaules. Les Croates, pas forcément dans le jeu, mais dans le réalisme.
Paul Pogba, en fait, va s'y reprendre à deux fois. Il va faire une première frappe qui est renvoyée, qui lui revient dessus. Et c'est une nouvelle frappe très tendue. Et le gardien qu'on connaît bien en France, puisque le gardien de Monaco, Subasic, est battu. Ça fait donc 3-1. Et puis, quelques minutes plus tard, c'est Kylian Mbappé qui voulait quand même également inscrire son nom à cette finale. Ce qui est logique, puisqu'il y a une forme de filiation avec Pelé. Kylian va également décocher une frappe qui vient de nulle part à 20-25 mètres.
Oh
Et il ne bouge pas, Subasic. On se demande ce qu'il a. On apprendra, je crois, après qu'il était légèrement blessé. Et en fait, il est mystifié, pétrifié. Et là, la France mène 4-1.
65e minute, l'équipe de France mène 4-1. Et en l'espace de 5 minutes, vient peut-être, peut-être, de terrasser la Croatie.
Les Croates vont réduire l'écart, mais les Français remportent cette finale 4-2. Bertrand Métayer, les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois.
Oui, et c'est une joie qui est difficile à décrire parce que on bascule un peu dans l'irrationnel de cette fin de match. On voit des joueurs redevenir des enfants. Ils courent dans tous les sens. Juste à ce moment-là, il y a une pluie torrentielle qui tombe sur Moscou. Ils se jettent tous dans les bras des uns des autres. Tout ça se passe, mais sous des déluges, mais d'eau. La pelouse est gorgée d'eau. Les joueurs se jettent sur la pelouse pour glisser sur des dizaines de mètres. Ils sont complètement recouverts de confettis dans tous les sens. Emmanuel Macron descend assister à la remise de la Coupe du Monde. Il n'y a plus rien qui marche. Emmanuel Macron est mais rincé avec sa chemise blanche totalement transparente. Vladimir Poutine qui fait la tête et qui est planqué sous un parapluie que lui tendent ses gardes du corps. Ça dure, mais un temps indéterminé et tout le monde est souriant, tout le monde est joyeux, tout le monde se fiche tout d'un coup d'être sous la pluie. On a l'impression que c'est une cour d'école, des gamins qui s'éclatent sous les yeux du monde entier.
Et les vainqueurs, ils sont là, ils ont un maillot bleu et au-dessus d'eux, au milieu d'eux, au cœur de ce groupe de 23, il y a Hugo Loris, le capitaine.
Allez,
prends ton
Hugo. Prends ton temps, tranquille. La fais pas tomber.
Allez. La France est championne du monde de football. La France est championne du monde de football. Bravo messieurs.
Bravo messieurs. Championne du monde, deuxième étoile.
Passe un truc, c'est que pour la première fois, on voit la célébration des joueurs dans le vestiaire en direct. C'est-à-dire qu'en 2018, les joueurs filment et diffusent en direct sur leur téléphone, sur Instagram, le discours d'Emmanuel Macron, les bêtises, les déguisements, Lucas Hernandez qui se balade avec un chapeau mexicain, un sombrero, voilà, Vladimir Poutine qui est encore de nouveau dans le vestiaire. Tout ça est surréaliste, les mecs sont torse nu, en slip, ils se baladent, ils prennent Emmanuel Macron par le bras. Tout ça, on le vit. Après, on voit les joueurs qui viennent en zone mixte et qui racontent des blagues. Et Adil Rami qui fait un show pendant trois quarts d'heure. Antoine Griezmann, hilar. Ils ont déjà descendu quelques bières. On sent qu'ils sont un peu éméchés. C'est hyper sympa.
Harold Marchetti, dans cette équipe, il y a un homme qui est champion du monde pour la deuxième fois.
Didier Deschamps, qui avait été champion du monde comme joueur en 98, et il rentre dans un club très fermé. Parce que dans ce club-là, il n'y avait que deux personnes, Mario Zagallo, le Brésilien, et puis le Kaiser, Franz Beckenbauer. Donc forcément, Didier Deschamps rentre dans le cercle des très grands.
Il y a un côté un destin hors norme avec Didier Deschamps. C'était un milieu de terrain qui n'avait pas forcément des grandes qualités techniques et qui est devenu un des plus grands entraîneurs de la planète foot. Moi, je suis fasciné par son travail au quotidien en tant que sélectionneur. Ça fait désormais 8 ans qu'il est sélectionneur. C'est pas rien. C'est un mandat extrêmement long. D'habitude, on est broyé, on est usé, on sort lessivé ce genre de fonction. Aimé Jacquet, Jacques Santini, Roger Lemaire, Raymond Domenech, ils ont tous eu des difficultés. Didier Deschamps, ça fait 8 ans, il est frais comme un gardon.
Didier, vous l'avez fait, vous êtes champion du monde, qu'est-ce que vous ressentez là?
C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. On est passé par des moments un peu difficiles, mais il y a besoin de ça. Et là, ils sont sur le toit du monde pour 4 ans. Quoi.
Merci à Dominique Sévérac, Bertrand Métayer et Harold Marchetti. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été conçu et préparé par Stéphane Geneste. Production Marion Botorel et John Timsit. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.